Mérant ouvert à tous, sans carte de membre, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Bonjour et bienvenue à notre balado S'informer pour mieux performer, un balado initié par Détaillant Alimentaire qui va se découper en 3 épisodes. Alors le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la recherche des nouveaux produits et de l'approvisionnement. Pour discuter de ce sujet avec nous, nous avons Stéphane Lacasse. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie.
Donc Stéphane Lacasse est directeur des affaires publiques et gouvernementales à l'Association des détaillants alimentaires, l'ADA. Et nous avons Sylvie Cloutier. Bonjour Sylvie.
Bonjour Marie.
Donc Sylvie qui est PDG du CETAC, donc le Conseil de transformation alimentaire du Québec. Donc pour notre premier épisode aujourd'hui, nous allons aborder le thème très important et fourni de la relation entre les fournisseurs et les détaillants. Donc on va aborder notamment tous les défis et les perspectives qui en découlent. Alors pour commencer, on va attaquer dans le vif du sujet. Première question, quels sont selon vous donc les défis rencontrés aujourd'hui à la fois par les fournisseurs et à la fois par les détaillants de la chaîne d'approvisionnement ? Première question que je vais adresser à Stéphane.
Mais en introduction, j'aimerais dire qu'il y a, la pandémie a fait un peu de changement dans notre secteur. Avant la pandémie, on voyait beaucoup d'abondance dans le secteur alimentaire. Il y avait une notion aussi de grande variété. La pandémie a amené de nouveaux défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement, a amené des défis. Bien, premièrement, on a toujours eu un enjeu de main-d'œuvre, que ce soit chez nous, au détail alimentaire, chez les distributeurs ou encore chez les fournisseurs, mais c'est accentué avec la pandémie. Il y a eu des fermetures d'usines, il y a eu des cas dans des usines, il y a eu des cas aussi dans les magasins, dans les centres de distribution. Ça fait en sorte que le paradigme a changé au niveau de la distribution alimentaire. Ça fait en sorte que le consommateur était habitué à beaucoup d'abondance, beaucoup de variété. Maintenant, c'est plus difficile. Donc, ça fait en sorte qu'on doit se serrer les coudes entre fournisseurs et détaillants. C'est une relation, puis je pense que c'est vrai pour compléter, qui est nécessaire et qui est inévitable. On ne peut pas, en tant que détaillant, faire fi des réalités de nos fournisseurs, et nos fournisseurs ne peuvent pas faire fi des réalités des détaillants. On est intrinsèquement liés, donc il faut qu'on se comprenne, qu'on travaille ensemble, puis qu'on trouve des solutions communes, parce qu'un fournisseur sans détaillant, ça ne fonctionne pas. Et un détaillant, encore moins sans fournisseur, c'est une épicerie vide. Donc, cette relation-là, elle est super proche. Puis, on a des réalités qui se ressemblent. On a des enjeux un peu différents, mais je vous dirais qu'au bout de la ligne, puis je vais laisser la parole à Sylvie, mais je pense que nos deux réalités sont complémentaires, puis on ne peut pas vivre un sans l'autre.
Si je peux poursuivre sur ce que Stéphane vient de dire, évidemment, on peut dire qu'on est revenu à une certaine normalité. Peut-être qu'elle ne durera pas, mais pour l'instant, du moins, oui. La pénurie de main-d'œuvre demeure. Et la pénurie de main-d'œuvre n'est pas seulement qu'au niveau manufacturier, alimentaire ou chez les détaillants, elle est partout. Puis elle est dans l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Donc, ce que Stéphane disait il y a 2 secondes, c'est qu'effectivement, il y a des produits qui ont disparu des tablettes. Les gens ne s'en sont pas vraiment aperçus. Par exemple, il y a des formats de produits qui ont disparu, différents formats ou certains produits qu'on ne retrouve plus du tout. Et c'est par obligation que les transformateurs alimentaires ont dû arrêter ces productions ou au moins diminuer. Puis c'est la raison principale étant la pénurie de main-d'œuvre. L'autre enjeu qu'on a aussi actuellement, puis qu'on partage tant du côté détail que évidemment transformation alimentaire, c'est la pandémie. C'est que la pandémie a amené des coûts absolument faramineux partout sur l'ensemble de la chaîne. Donc, on se retrouve avec des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de coûts dus au transport, de la marchandise, dus aux fermetures. Évidemment, tout le monde a été impacté par la pandémie. Il y a eu des fermetures partout dans le monde. Donc, on reçoit, par exemple, des contenants emballage de l'Asie. Bien évidemment, si les contenants emballage n'arrivent pas ou arrivent à des coûts abracadabrants, bien, on n'a pas nécessairement les moyens de continuer à fabriquer les produits de la même façon. Et surtout, on ne peut pas non plus refiler les factures actuellement aux consommateurs là, du jour au lendemain. Alors, on a des enjeux qui sont absolument terribles actuellement, tant du côté de la fabrication des aliments que le détail.
Donc oui, l'enjeu principal semble vraiment être ce problème de main-d'œuvre, en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Stéphane, tu parlais de l'importance de travailler ensemble, de collaborer ensemble entre les deux parties. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre des exemples de collaboration à citer, de nouvelles initiatives qui ont été mises en place pour répondre à ces problèmes?
Ben oui, il y a plusieurs. Pendant la pandémie, les détaillants ont deux modes d'approvisionnement, soit qu'ils passent par leur centrale d'achat, ceux qui sont avec les bannières, ou encore ceux qui font des relations directes avec les fournisseurs. Puis, je vous dirais que au début de la pandémie, on manquait certains produits alimentaires. Donc, il y a certains détaillants qui se sont dit « Oh, ma chaîne d'approvisionnement avec ma bannière, c'est un petit peu difficile. » Donc, je vais me retourner vers d'autres distributeurs. Donc, il y a des détaillants qui ont ouvert un peu les yeux. Qu'est-ce qu'ils faisaient un petit peu moins avant? Ils se fiaient beaucoup plus sur leur centrale d'achat. Donc, ils ont regardé au Québec comment je pourrais trouver des distributeurs. Et ça a permis justement, je pense, à favoriser ce mariage-là qui était... Moi, j'étais peut-être pas là avant, mais qui était moins présent dans l'esprit des détaillants. Quand il te manque des produits, là, puis que ton client il en a besoin, puis que les restaurants sont fermés, puis il reste plus grand-chose, puis qu'il te manque de salade, là, ben, tu vas regarder c'est quoi les distributeurs locaux, puis tu vas appeler, puis tu vas prendre le téléphone, puis tu vas trouver des distributeurs, des fournisseurs, puis tu vas créer une relation. Fait que la pandémie a amené ça. Donc, ça, c'est un bon côté. Il y a une latitude aussi de plus en plus présente, puis les bannières commencent à laisser plus de latitude encore aux détaillants sur cet enjeu-là de fournisseurs parce que eux, bon, ils ont un pouvoir d'achat, mais en même temps, les fournisseurs locaux, les détaillants veulent travailler avec leurs fournisseurs locaux. Le consommateur le cherche aussi. Donc, je voudrais qu'il y ait eu quand même une espèce de débrouillardise là, qui s'est fait au niveau des détaillants pour trouver des fournisseurs, puis être capable de rebâtir une relation d'affaires de proximité. Là.
Oui, à ça, moi, j'ajouterais que, justement, au début de la pandémie, il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Tous les intervenants de la chaîne alimentaire, de la terre à la table, étaient autour de cet appel-là, en fait. Et on était capable, presque en direct, de voir quels étaient les manques, les besoins et comment on pouvait aider à combler ces manques et besoins. Donc, et effectivement, on a tenté de mettre en lien et en contact les fabricants d'aliments avec les détaillants dans les régions. Et je pense que ça a très bien fonctionné. En fait, je pense pas qu'on a vraiment manqué de quoi que ce soit pendant la pandémie. Puis, quand on a eu certaines pénuries, bien, c'était une question de jours où on a retrouvé ces produits-là sur les tablettes, simplement parce que, justement, les détaillants travaillaient avec leurs fournisseurs locaux. Alors, on a vraiment aussi favorisé ou ouvert une économie circulaire.
Et donc, finalement, ça a mis en place des choses, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques qui ont émergé de la crise, en fait. Je voudrais qu'on parle aussi du guide des bonnes pratiques. Selon vous, qu'est-ce que ça va changer dans cette relation entre les fournisseurs et les détaillants? Sylvie, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus?
En fait, si je veux être capable de résumer quelle est la situation actuelle, c'est comme si on signait un contrat avec Hydro-Québec, par exemple, et que dans le milieu de l'année, Hydro décidait qu'il changeait ses tarifs, ses prix, et que, contrat ou pas, écoute, t'as une hausse de 30% ou on t'oblige à faire telle chose ou telle chose. Le code de bonne pratique doit ramener les obligations contractuelles, notamment entre un détaillant ou plutôt un grand distributeur alimentaire et ses fournisseurs. c'est tout simplement de revenir à des relations plus harmonieuses et surtout plus prévisibles. Parce que l'enjeu actuellement des relations, c'est on est toujours face à l'imprévisible. Un grand distributeur alimentaire va décider qu'il investit massivement dans les ventes en ligne, par exemple. Et il va retransmettre la facture à ses fournisseurs dans le milieu d'une année donnée. C'est ce que déplorent les transformateurs alimentaires. C'est l'imprévisible, finalement. Alors, on souhaite et on espère que ça va ramener un certain équilibre à travers un code de bonne pratique.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Sylvie vient de dire. La question de prévisibilité est super importante, autant pour nous que pour les fournisseurs. Quand tu as une facture à payer, tu la respectes, tu respectes le contrat. Et d'un autre côté aussi, c'est la même chose au niveau des approvisionnements. Donc, le code va permettre d'avoir de solidifier des liens d'affaires qui existent déjà et dans le respect des deux parties. Autant pour les transformateurs qui font affaire avec les grands distributeurs, mais aussi au niveau des détaillants, au niveau de la prévisibilité, au niveau des fournisseurs. Parce que quand tu signes un contrat d'approvisionnement, au niveau local qu'au niveau national, tu veux t'assurer d'une prévisibilité. Et l'inverse, tu veux pas non plus qu'ils rechangent ton contrat en cours de route puis dire, by the way, je manque de main-d'œuvre et je t'envoie 10% de plus cher de frais. De côté, je pense que la prévisibilité va être super importante parce que, un, on gère de l'alimentaire, donc du vivant, mais on gère aussi des relations humaines. Et tu veux pas arriver dans une période d'affaires aussi importante et qu'il y ait des conflits. Donc, le code va permettre de donner des balises, autant pour les fournisseurs que pour les détaillants et les grands distributeurs, mais également aussi un règlement des différends. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que le message autant au niveau des transformateurs et des distributeurs, c'est que je pense qu'on est capable, entre nous, de bien gérer. Et un règlement des différends pourra permettre, comme c'est dans le cas des fruits et légumes, de baliser, en fait, puis d'un côté comme de l'autre. Donc, autant... Il ne faut pas qu'il y ait d'abus des détaillants, il ne faut pas qu'il y ait d'abus non plus des fournisseurs. Puis je pense que ces balises-là qui se fait avec l'industrie, je pense que c'est l'industrie entre elles qui peut s'asseoir et dire voici comment on gère et voici comment il faut se respecter un et l'autre. Puis je pense que ça va gagner dans le temps, puis je pense que ça va favoriser nos relations qui sont déjà bonnes, mais des fois, il y a certaines personnes qui décident d'abuser, puis il ne faut pas que ça arrive.
Oui, donc finalement, les deux enjeux principaux, on a parlé de problèmes de main-d'œuvre, on parle d'imprévisibilité, c'est deux choses qui ont été extrêmement renforcées par la crise et la pandémie, donc qui a mis tout le secteur un peu dans l'œil du cyclone. On a cité quelques initiatives qui ont été mises en place pour renforcer ces liens entre fournisseurs et détaillants. Est-ce que vous en avez d'autres que vous aimeriez mettre en avant et nous expliquer ce matin?
Moi, je peux parler du concours qu'on met en place, qui s'appelle le concours des aliments du Québec dans mon panier. J'invite, en fait, tous les détaillants qui nous écoutent à participer le plus possible au concours. Je vous explique le concours. C'est un concours de marchandisage. Donc, un détaillant doit faire une association avec un fournisseur et décider de mettre un produit certifié aliments du Québec lors d'une période de marchandisage. On parle de 3 semaines à peu près durant l'été pour faire connaître un nouveau produit à la clientèle. Et il faut que ce soit un produit, bien sûr, signé Aliments du Québec, donc certifié Aliments du Québec. Donc, on favorise l'achat local et on fait découvrir un nouveau produit. Donc, le détaillant a l'avantage de dire, moi, je veux justement mettre de l'avant. Puis les consommateurs cherchent les produits en magasin, cherchent l'identifiant. Donc, si pendant 3 semaines, je peux mettre un nouveau produit, puis j'invite aussi, je parle à des détaillants, donc quand vous cherchez un produit, essayez d'un peu... de faire de la nouveauté. Parce que des fois, oui, il y a des produits forts québécois qui sont intéressants à faire découvrir, mais d'un autre côté, il y a des produits aussi un peu moins connus qui gagnent à être connus. Puis je pense que, même chose au niveau des fournisseurs, si vous avez des nouveaux produits à faire découvrir aux consommateurs, aux détaillants, puis j'espère qu'en 2022, on va être capable de faire des meilleures dégustations en magasin, là. Mais si vous avez des produits à faire découvrir, c'est intéressant de dire « Ah, moi, je lance un nouveau produit » ou « Je suis un petit fournisseur dans ma région ». J'aimerais aller au détail alimentaire, je ne sais pas trop comment que ça fonctionne. Je vais aller dans un magasin, je vais tester des choses, je vais voir c'est quoi la réaction de la clientèle. Je pense que c'est le type d'initiative-là qu'on lance, le concours. Puis je pense que c'est une bonne chose pour faire découvrir les produits. Puis je pense que pour un détaillant, c'est de se démarquer, d'être original et de ne pas prendre toujours les mêmes layouts puis mettre ça de l'avant. Là, je pense que le concours permet vraiment une originalité puis de même mettre en compétition des départements. Il faut mettre le département des fruits et légumes en compétition avec le département du surgelé, par exemple, puis les deux vont se compétitionner dans le cadre du concours. Ça peut être intéressant à l'intérieur même d'un magasin.
Effectivement, c'est un concours qui est très couru. Nos membres transformateurs s'associent localement avec des détaillants et font vraiment des montages en magasin qui sont impressionnants. Pour l'avoir vu depuis quelques années, c'est vraiment impressionnant. Je veux aussi souligner le fait que la pandémie a mis beaucoup l'accent sur l'achat local, l'autonomie alimentaire et on a vu dans la dernière année ou les derniers 2 ans une augmentation assez importante de vente de produits québécois. Je veux souligner le fait que plusieurs grands détaillants sont des utilisateurs du logo Aliments du Québec, par exemple. Et Aliments du Québec est très présent, vient de lancer une nouvelle campagne, rechercher les logos Aliments du Québec. Et on a la collaboration des grands détaillants, des distributeurs pour la promotion, la visibilité des produits québécois en magasin. Et puis Stéphane peut peut-être en parler un peu plus, mais les détaillants représentés par l'ADA ont aussi l'opportunité d'acheter un pourcentage de produits québécois local. Et moi, dans ma petite municipalité, on a deux grandes bannières, évidemment, des marchands. Je les nommerai pas, mais qui mettent vraiment en valeur les produits québécois et les produits locaux dans leurs magasins. Donc, je ne sais pas, Stéphane, peut-être que tu peux expliquer comment on peut vendre ce qu'on appelle, nous, le « backdoor » ou la vente directe à travers les détaillants, mais c'est une opportunité en or pour les petits transformateurs locaux, les petits artisans, de vendre des produits directement à travers leur épicier local.
Ben, effectivement, Sylvie, tu amènes un bon point. Le détaillant a, comme j'en parlais tantôt, deux possibilités, passer par sa centrale d'achat, par exemple pour les marques nationales. Je veux dire, on n'ira pas voir Kraft directement, on n'ira pas voir Krispy Kreme à Montréal directement, ça passe par la centrale d'achat. Par contre, on peut aussi s'asseoir directement avec notre fournisseur local, régional, dire, donne un exemple, les délices du Lac-Saint-Jean. À l'époque, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un petit transformateur qui voulait faire connaître les produits dans sa région et avait fait des petits pots avec les délices du Lac-Saint-Jean. Donc, on dit, ben, comment je peux, moi, rentrer à l'épicerie? J'ai le goût de faire connaître les produits, je fais un beau produit. Ben, je vais aller voir mes épiceries du coin. Je vais aller voir les GA Delbeau, je vais aller voir les GA Robert-Val, je vais aller voir le Provigo à Alma. Donc, je vais aller voir mes détaillants locaux, puis je vais trouver des ententes directes avec eux. Donc, je ne suis pas obligé de passer par Sobeys, Metro ou encore Loblaw. Je peux directement faire affaire avec mon détaillant. Je signe un contrat d'approvisionnement. Je signe un contrat. Puis l'avantage que ça a aussi avec un détaillant alimentaire, contrairement à d'autres types de commercialisation qui est le marché public ou encore la vente à la ferme, ça permet d'avoir une garantie de volume d'achat. Puis ça, pour un transformateur, Sylvie, tu me corrigeras, mais c'est intéressant parce que le détaillant peut dire, regarde, moi, je te l'achète, là. Mais il faut que tu me fasses l'approvisionnement pour tant de mois. On va s'asseoir, on va regarder ensemble. Mais s'ils veulent partir un nouveau produit, quand tu as un acheteur qui sécurise tes achats, ben ça te permet au moins de partir ta ligne de production puis d'avoir une entente directe avec le fournisseur. Donc, on peut le faire avec des producteurs, mais on fait beaucoup avec des transformateurs parce que, tu sais, je pense dans ton coin, Sylvie, à la canne blanche avec la famille Lambert. Je veux dire, c'est un producteur d'OA qui a décidé, lui, de faire des œufs. Emballé, puis il décide d'aller chez la famille Lambert. Il y a plein d'initiatives comme ça. Puis, même chose ici, moi je suis dans la région de Québec, une personne que je connais qui a décidé de faire des bars énergétiques, c'est associé avec la famille Gagné à Québec, qui ont 6 magasins. Bien, elle a commencé comme ça. Avant d'être référencée chez IGA, chez Metro ou chez Provigo, bien, commencez par le local parce que, un, ça te permet de tester, mais il y a des gens qui font l'inverse, qui veulent tout de suite aller chez Sobeys, mais c'est pas la même game. Donc, puis cette relation-là, elle est super intéressante, puis ça fait connaître les produits aux clients. Puis il y a un peu, je me trompe, là, mais un peu une fierté aussi. Moi, j'aime ça quand je vais me promener à travers le Québec. Là. On peut juste faire ça pendant la pandémie là, au Québec. Donc, mais j'aime ça aller dans des supermarchés, de voir les. Ah, ben, je connaissais pas ça. Puis pourtant, on est dans le secteur. Quand tu te promènes un peu, tu dis, ah, ben, ça vient de. Ah, c'est juste en Gaspésie, c'est juste produit en Gaspésie. Donc, c'est intéressant. Mais le détaillant aussi a une responsabilité. Je veux dire, après ça, il faut qu'il le mette de l'avant. Parce qu'il peut faire une entente avec le transformateur, mais il y a une responsabilité de le mettre de valeur puis d'amener ce côté un peu chauvin régional. Mais je pense que ça permet de faire connaître des beaux produits. Puis après ça, ben, si le transformateur commence à se faire les dents, guillemets, avec quelques détaillants, peut viser une deuxième région, une troisième région. Puis c'est même qu'on va croître notre économie, là.
Puis Stéphane, comme tu le sais, il y a plusieurs petits produits locaux qui ont démarré grâce à l'appui d'une famille dans une région et puis qui ont connu un grand succès, qui leur permet de passer une production plus importante et évidemment de faire connaître leurs produits à travers le Québec et sinon ailleurs. Alors, cette relation-là entre un petit fabricant ou un artisan local et son détaillant local a permis à plusieurs ou permet de favoriser une vente de produits beaucoup plus important, juste le faire connaître localement puis que les gens en parlent. Alors, c'est vraiment une opportunité en or que plusieurs saisissent et qui vaut vraiment la peine.
C'est un peu le modèle des microbrasseries au départ. Les microbrasseries, je vous dirais, il y a 10 ans, là, on avait la Boréale, on avait la Belle Gueule, on avait une Hibro était une microbrasserie maintenant rachetée par Slimane, mais à la base, on avait quelques micros, puis c'était beaucoup au niveau régional. Là, il y a une explosion de la microbrasserie. Mais en même temps, les micros ont pris ce modèle d'affaires-là, ont brassé régionalement, ont été voir les détaillants, puis on veut vendre notre bière dans les commerces. Puis bon, maintenant, certains détaillants qui ont pris de l'ampleur au niveau de la microbrasserie, mais à la base, c'était ça, c'était la bière de la place, qui allait au détail, puis que les gens commençaient à découvrir. Donc, je pense que ce modèle-là, je pense qu'il est intéressant, puis je pense qu'il nous permet de se différencier en tant que détaillant propriétaire. Et donc, ça nous permet d'avoir une couleur, puis je voudrais, si tu veux te démarquer comme propriétaire de magasin, comme gérant de département, ben, fais les affaires avec directement avec tes marchés locaux, puis avec tes entreprises locales, puis tu vas bien plus rayonner que si tu fais juste du placement de produits de ta grande chaîne.
Oui, donc finalement, ouais, le local, les aliments locaux, c'est vraiment une relation gagnante, aussi bien du côté du fournisseur que du détaillant. Ben on arrive déjà à la fin de ce premier épisode. Merci beaucoup pour votre participation, Stéphane et Sylvie.
Merci.
Donc, premier épisode où on parlait de cette relation fournisseur et détaillant. Chers auditeurs, je vous invite à écouter tout de suite le deuxième épisode dans lequel on va parler des marques privées. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.